Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur des sujets touchant notre quotidien. Aujourd'hui, et pour la dernière fois, nous allons aborder le thème de la communication. Alain, quelles autres leçons allez-vous nous apporter à ce sujet à travers les Proverbes ?
En voici une. Selon les Proverbes, il est quelquefois sage de parler peu plutôt que beaucoup. Ainsi, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, il peut être sage de mettre un frein à ses paroles et même de s'abstenir totalement de parler.
Et pouvez-vous nous citer des proverbes expliquant cela ?
En voici trois. Nous pouvons lire au chapitre 13, verset 3. « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. » Au chapitre 10, verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter le péché. » Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Et chapitre 17, verset 27. L'homme d'expérience limite ses paroles, et celui qui garde son sang-froid est intelligent.
Et que pouvez-vous dire sur ces versets ?
La leçon essentielle qu'ils contiennent est celle-ci. Celui qui est sage en prendra à se maîtriser, notamment dans ce qu'il dit. Certaines paroles peuvent peiner ou créer des conflits. Nous devons réfléchir aux conséquences de nos paroles avant même de les prononcer.
Il est vrai que nous pouvons nous emporter et dire des choses que nous regretterons par la suite.
C'est exact. Or, être sage, c'est mesurer la portée de ses propos. C'est réfléchir à leurs conséquences. Même si des personnes peuvent nous provoquer, même si elles veulent nous blesser dans notre fort intérieur, nous devons rester prudents et sages quant à nos réponses et savoir nous maîtriser.
Mais ce n'est pas toujours facile de mettre cela en pratique.
C'est vrai, Yann. Il est aussi dit dans le Nouveau Testament que la maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit. Si donc nous avons du mal à nous maîtriser en parole, il nous faut prier Dieu et lui demander que son Saint-Esprit produise ce fruit en nous.
Donc selon les proverbes lus tout à l'heure, si nous acquérons cette maîtrise de soi et parlons avec discernement, cela nous évitera bien des ennuis et nous gardera de certains conflits et malheurs. Protégeons ainsi notre vie du pire.
Oui, le livre des Proverbes est comme un manuel dont les instructions, si elles sont bien suivies, nous permettront de réussir notre vie devant Dieu. Ainsi, les Proverbes nous donnent des conseils, entre autres, non seulement sur la façon dont nous devons nous exprimer, mais aussi à quel moment nous devons le faire ou nous abstenir de le faire. Ensuite, puisque nous parlons d'occasions où il est préférable de rester silencieux, j'aimerais, Yann, que vous lisiez les versets 12 et 13 du chapitre 11.
Bien sûr. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée.
Dans la première partie de ce proverbe, nous avons un rappel de ce que nous venons d'apprendre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux parler peu et avec sagesse plutôt que de prononcer des paroles maladroites ou méchantes. Ensuite, l'auteur de ce proverbe prend un exemple précis. Il conseille de rechercher la discrétion.
Et comment définissez-vous la discrétion ?
La discrétion consiste à savoir garder les secrets d'un autre, à ne pas les divulguer dans le but de le protéger. Autrement dit, si nous pouvons compter sur la discrétion d'une personne, c'est parce que nous savons qu'elle va s'abstenir de participer au commérage, de répandre des rumeurs. Elle refusera aussi de médire. Et nous savons que les rumeurs, vraies ou fausses, nuiront à la réputation de quelqu'un.
Mais que faire si, par exemple, nous remarquons qu'un voisin, comme Martin Luther, ignorait de sa femme ? Faut-il continuer à agir comme si de rien n'était ?
Effectivement, il existe des cas demandant beaucoup de réflexion. En ce qui concerne votre exemple, la discrétion conseille que vous alliez d'abord voir votre voisin, afin qu'il se remette en question et corrige son comportement, et que vous ne répandiez pas de commérages et des rumeurs à son sujet dans le quartier entier. Également, si nous sommes témoins d'actes criminels, menaçant des vies et mettant en péril des biens, Nous ne devons pas prétendre qu'il ne s'est rien passé, mais nous devons avoir le courage de dénoncer le ou les malfaiteurs auprès des autorités compétentes.
Merci Alain. Vous voudriez citer d'autres proverbes, je pense.
Oui, écoutons au chapitre 18 le verset 13, qui répond « avoir d'avoir écouté » manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Cette fois-ci, ce proverbe nous exhorte à bien écouter celui qui nous parle, afin de pouvoir comprendre ses besoins et donner une réponse juste et appropriée à ses interrogations. Nous ne pouvons espérer répondre aux attentes d'une personne, lui apporter un réconfort ou lui donner des conseils, si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'elle nous explique.
Il nous faut donc prendre le temps d'écouter les autres avant de leur répondre.
C'est exact, Yann. Ainsi, nous pouvons dire que les proverbes, selon notre contexte, nous encouragent soit à garder le silence, soit à parler au moment opportun pour faire le bien.
À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouve totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et voulut rentrer chez lui. Il espérait y être reçu au moins comme un serviteur de son père. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et il courut à sa rencontre. Voici donc la suite de l'histoire.
Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. »
Flavien, la dernière fois, vous nous avez appris que ce père, en courant à la rencontre de son fils, le protège de l'humiliation qu'il risquait d'essuyer de la part des villageois. Quelque part, cet homme a payé pour l'offense de son fils et montré ainsi sa volonté de pardonner et son désir de réconciliation. Vous avez aussi comparé cet acte d'amour avec celui accompli par Jésus sur la croix. Jésus, en acceptant d'être humilié, de mourir crucifié, a payé le prix de nos offenses et nous a ouvert le chemin, nous permettant de nous réconcilier avec Dieu. Et aujourd'hui, nous découvrons l'heureuse rencontre de ce fils avec son père. Que voulez-vous nous apprendre à ce sujet?
Nous avons déjà remarqué que ce jeune homme, tout honteux à cause de ses fautes, ne se considère plus comme un fils. C'est pourquoi il exprime son désir d'être traité comme un ouvrier. Toutefois, son père refuse qu'il en soit ainsi. Et tous ces gestes montrent qu'il accueille son fils en tant que tel.
Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Oui, bien sûr, Yann. Tout d'abord, nous avons lu que son père se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Un homme n'aurait jamais accueilli un ouvrier ou un esclave ainsi. Ces gestes montrent plutôt toute l'affection d'un père envers son enfant. Ce qu'il accomplit pour lui exprime ainsi son désir de pardon et de réconciliation. Ce père commence donc par affirmer son souhait d'accepter son enfant comme un fils. Son attitude prouve qu'il est prêt à oublier le passé, tout ce qui fut la cause de leur séparation, pour reprendre une relation filiale sur de bonnes bases. Toutes ces marques d'affection envers son enfant affirment cette pensée.
Nous avons lu ensuite que ce père appelle ses serviteurs afin qu'ils lui apportent des vêtements, une bague et des sandales. En quoi cette demande montre-t-elle que ce jeune homme est reçu comme un fils?
Eh bien, chacun de ces objets est destiné à redonner au jeune homme, publiquement, c'est-à-dire devant le village entier, son statut de fils. Nous pouvons imaginer que ce fils est revenu en bien piteux état. Après toutes ces expériences négatives, il avait besoin de nouveaux habits. Mais le texte lui affirme que son père voulait lui donner le meilleur des vêtements. En ce temps-là, on ne donnait pas aux serviteurs les meilleurs habits, car ils étaient réservés pour la famille. Il en était de même pour la bague. Elle était réservée aux membres de la famille, et probablement, celui qui la portait pouvait être identifié comme faisant partie de telle ou telle famille. Également, les serviteurs ne portaient pas de sandales, seuls les employeurs en chaussaient. Vous comprenez donc que cet homme n'a pas reçu son fils à contre-cœur, et il n'était nullement empli de rancune contre lui. Non, il désire couvrir son piteux état, cacher ses vêtements lamentables et le montrer au village en affirmant « Voici mon fils, il est de retour et je l'aime ».
Jésus racontait des paraboles afin d'expliquer aux hommes un enseignement spirituel. Que devons-nous donc apprendre de cette rencontre ?
Eh bien, quand nous nous rendons compte que nous avons profondément offensé Dieu, que nous réalisons à quel point nous l'avons attristé, nous pouvons nous demander comment il nous recevra si nous décidons de nous rapprocher de lui.
Il est vrai que des sentiments de culpabilité peuvent freiner toute démarche de retour vers Dieu. Mais cette parabole nous montre que nous devons surmonter ces craintes, car Dieu recevra favorablement tout homme qui se repent et s'approche de lui le cœur sincère.
C'est exact. Craignez-vous d'être rejeté par Dieu ? Cette parabole nous apprend que celui qui s'approche de l'Éternel, le cœur humble et sincère, sera accepté de lui. Le Seigneur lui pardonnera sa faute et l'accueillera avec joie. De plus, la Bible affirme qu'au lieu de nous accorder une place de citoyen de deuxième classe dans son royaume, Dieu fait de nous ses fils. Dieu ne connaît pas la rancune, mais il prend plaisir à accorder sa grâce et sa miséricorde à celui qui vient à lui. Et il s'est réjoui de pardonner au pécheur ses fautes, de lui accorder tous les plus grands privilèges de l'enfant de Dieu.
Pouvez-vous citer d'autres textes de la Bible qui nous affirment que Dieu fait de nous ses enfants ?
Oui, bien sûr. Ils sont assez nombreux dans la Bible, mais en voici deux. Lisons l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, c'est-à-dire en Jésus, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Puis, l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 4 et verset 7. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu.
Merci Flavien. Vous venez de parler de l'une des vérités bibliques la plus précieuse. Dieu considère celui qui met sa foi en lui comme son enfant.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous accorde la bénédiction merveilleuse d'être son enfant.